Europe 1.
Europe 1 Soir Week-end.
18h-20h, Jacques Serret.
À 19h30, nous fêterons les 75 ans de Paris Match avec Patrick Mahé, figure incontournable de Match, auteur de la légende de Paris Match qui sort aujourd'hui en librairie aux éditions Plon. Mais avant ça, il est 19h sur Europe 1. Bonsoir Cédric Chasseur.
Bonsoir Jacques, bonsoir à tous. Dans l'actualité de ce vendredi 26 avril, le chaos à Sciences Po, établissement bloqué toute la journée par des étudiants pro-palestiniens installés dans la rue après un moment de tension cet après-midi avec l'arrivée de manifestants pro-israéliens. C'est un autre face-à-face qui se prépare avec la police qui prépare l'évacuation de la voie publique.
Quelle note pour l'économie française? Deux agences de notation doivent évaluer la bonne ou la mauvaise santé financière du pays. L'explosion de la dette fait craindre une dégradation.
10 jours après avoir été allumée, la flamme olympique est officiellement entre les mains de la délégation française de Paris 2024. Cérémonie cet après-midi à Athènes. La torche doit désormais embarquer sur le Bélem pour prendre la direction de Marseille, où c'est Florent Manaudou qui sera le premier porteur de la flamme le 8 mai.
La tendance météo avec vous, Mickaël Poteau. Bonsoir oui. Mickaël.
Bonsoir Jacques, bonsoir à tous. Eh bien, c'est un week-end bien capricieux qui commence demain avec de fortes pluies dans l'ouest, dans les Pyrénées et dans les Cévennes. Des nuages partout ailleurs avec des températures en hausse.
Bulletin complet à la fin de ce journal.
Europe 1 Soir Week-end.
La tension est montée d'un cran cet après-midi à Sciences Po Paris, une université bloquée depuis hier soir par une mobilisation pro-palestinienne.
Plusieurs dizaines d'étudiants ont d'abord investi un bâtiment de l'établissement avant de se positionner devant les portes de Sciences Po, dans la rue. Cet après-midi, des manifestants pro-israéliens sont venus se confronter à eux. Des tensions, mais pas de violence physique. Bonsoir Guillaume Dominguez.
Bonsoir.
Vous êtes pour Europe 1 devant Sciences Po. Désormais, les militants pro-palestiniens sont encadrés par les forces de l'ordre. Les CRS sont arrivés sur place et le préfet a demandé l'évacuation de la voie publique.
Et oui, les CRS viennent de se mettre en position à l'instant, casque sur la tête, bouclier à la main. Trois lignes font face à présent aux étudiants qui bloquent toujours le campus de Sciences Politiques. Le préfet de police de Paris a ordonné l'évacuation de la rue Saint-Guillaume pour trouble à l'ordre public un petit peu plus tôt dans l'après-midi. Mais la direction de Sciences Po a tenté une ultime négociation avec les étudiants pour leur demander de quitter les lieux de leur propre initiative. Alors, pour le moment, aucun ordre n'a été donné, mais l'évacuation pourrait avoir lieu d'un instant à l'autre. Les manifestations, eux, sont toujours assis, drapeau à la main, visage masqué. Ils semblent bien décidés à ne pas bouger. Les étudiants présents à l'intérieur du bâtiment ont fait savoir que, un peu plus tôt dans l'après-midi, qu'ils sont décidés à bloquer l'université et y rester tout le week-end si nécessaire.
Guillaume Dominguez en direct de Sciences Po Paris pour Europe 1. La direction de l'université condamne fermement ces actions étudiantes. De son côté, la ministre de l'Enseignement supérieur, d'ailleurs, Sylvie Retailleau dénonce les méthodes employées, parlant de lignes rouges franchies.
Sylvie Retailleau qui s'attaque également directement à Rima Hassan sur les réseaux sociaux.
Elle parle d'irresponsabilité après l'appel au soulèvement de la candidate aux européennes, 7e sur la liste de la France insoumise. Alexis de La Fontaine, Rima Hassan a d'ailleurs ouvert le bal des visites de soutien des élus d'extrême gauche aux étudiants qui bloquent l'université aujourd'hui.
Oui, Rima Hassan est accueillie comme une rockstar devant le blocus de Sciences Po, accompagnée par plusieurs députés de la France insoumise. Elle tente d'encourager le mouvement lancé par les étudiants pro-palestiniens. Je vous propose de l'écouter.
Je crois que c'est un symbole qui est extrêmement fort. C'est inédit puisque ce sont des espaces de résonance à ce qui se passe dans notre société. Et donc, c'est très très important d'être à l'écoute de ce qui est en train de se jouer et des messages que portent les étudiants ici.
Officiellement, Rima Hassan vient porter le message des étudiants, mais en réalité, la France insoumise essaye depuis des semaines d'utiliser la situation à Gaza pour mobiliser les électeurs musulmans le 9 juin. Un électorat très favorable à Jean-Luc Mélenchon, mais qui a tendance à s'abstenir lors des élections européennes. Alors après plusieurs provocations médiatiques, la France insoumise tente maintenant d'importer le conflit via les universités, comme aux États-Unis, et d'autres facultés en dehors de Paris pourraient suivre le mouvement.
Alexis de La Fontaine du service politique d'Europe 1. À Lille, l'association des parents d'élèves du lycée musulman Averroès porte plainte pour discrimination contre le préfet du Nord. En décembre dernier, il avait résilié le contrat liant l'État à l'établissement, mettant donc fin aux subventions à partir de la rentrée prochaine. Décision motivée par des enseignements contraires aux valeurs de la République, selon lui.
Fitch et Moody's vont-elles baisser la note de la France?
C'est ce soir, autour de 22h, que ces deux agences de notation doivent donner donner leur avis sur la santé financière du pays, alors que la dette française dépasse les 3000 milliards d'euros. Il y a donc des raisons de ne pas être totalement optimiste. Sauf que Alexandre Chauveau, une dégradation de la note pourrait avoir des conséquences politiques pour le gouvernement.
Oui, cela viendrait s'ajouter à une série de mauvaises nouvelles sur le plan budgétaire, des prévisions de déficit en deçà de la réalité et une croissance plus faible que prévue. Conséquence, des milliards d'euros d'économies à réaliser, et ce alors que l'absence de majorité absolue à l'Assemblée contraint le gouvernement à attendre l'automne prochain pour rectifier le tir. L'hypothèse d'un budget rectificatif a en effet été enterrée par Emmanuel Macron en personne, qui ne souhaitait pas s'exposer à une potentielle motion de censure des Républicains. La baisse de la note de la France par les agences de notation interviendrait également en pleine campagne européenne, avec un électorat macroniste composé en partie de retraités et de CSP+, attachés à la crédibilité économique de la France. Ce qui était jusqu'ici l'un des points forts d'Emmanuel Macron, à qui l'on attribue un certain dynamisme économique et la baisse du chômage, est donc en train de devenir un nouvel angle d'attaque pour les oppositions.
Alexandre Chauveau pour Europe 1.
Les agences de notation, objet de notre invitation à l'économiste Norbert Gaillard, tout à l'heure à 19h15. Il est 19h06 sur Europe 1. C'est une agression qui avait suscité l'émoi national, celle d'un brancardier aux urgences de Châlons en Vendée.
C'était le 6 avril dernier sur le parking de l'établissement de santé. Un homme de 23 ans perd ses nerfs car il estime que son père et son cousin brûlés n'étaient pas pris en charge assez vite selon lui. Il frappe un coup de poing sur le brancardier qui sortait déjeuner, le blessant gravement. Le suspect en détention provisoire était jugé en comparution immédiate ce vendredi devant le tribunal des Sables-d'Olonne. Il a écopé d'une sanction exemplaire. 4 ans de prison, dont 2 en ferme. Charles Guyard.
C'est très intéressant la manière dont le tribunal a voulu engager le procès en diffusant ces images.
Et ces images extraites de la vidéosurveillance font froid dans le dos. On y voit un homme asséner un violent coup derrière la tête de Guy, un brancardier, son avocat, Maître Boézek.
Ces images sont très claires sur la violence, mais surtout par le timing, pour mettre à néant toute possibilité de broder un autre narratif.
En effet, car au-delà des images, il y a surtout la chronologie qui vient balayer le défaut de prise en charge avancé par la défense. Car entre l'arrivée des blessés aux urgences et l'agression du brancardier, 3 minutes seulement se sont écoulés. À la barre, le prévenu regrette son geste mais évoque maintenant des propos stigmatisant la communauté des gens du voyage, ce que de nombreux témoins contestent. En le condamnant, son avocat Maître Riffaut considère que le tribunal l'a érigé en symbole des violences commises à l'hôpital.
Moi je veux pas qu'il soit considéré comme bouc émissaire pour toute l'incivilité qu'il y a dans les différents établissements de soins.
Dans sa plaidoirie, l'avocat des parties civiles avait lui rappelé ce chiffre issu d'un rapport de l'Observatoire des violences en milieu de santé. En 2020 et 2021, près de 70 000 atteintes aux personnes et aux biens ont été enregistrées en France, dans un service de soins.
Charles Guyard, correspondant d'Europe 1 dans l'Ouest. La mairie de Gravelines, dans le Nord, visée par une cyberattaque. La commune va devoir travailler hors réseau pendant une semaine. On ne sait pas si des données personnelles ont été volées. La municipalité a déposé plainte. La vaccination contre la méningite élargie à partir du début de l'année 2025. Jusqu'ici, elle était obligatoire chez les nourrissons seulement pour une famille de bactéries, les méningocoques C. Elle le sera dorénavant aussi pour les enfants de moins de 1 an contre les méningocoques A, B, W et Y, conséquence d'un rebond de ces infections graves.
Et puis Cédric, la France retrouve sa couronne mondiale. Le pays est redevenu le tout premier fournisseur de vin.
Oui, selon les chiffres révélés par l'Organisation internationale du vin, mais ce retour en tête du classement est surtout la conséquence d'une baisse des productions partout ailleurs dans le monde, et notamment en Italie et en Espagne, moins 10%. Le monde viticole n'a jamais produit aussi peu de vin depuis 1961. Aurélien Fleureau, comment expliquer cette tendance ?
Oui, la France s'en sort mieux que ses voisins avec une hausse de 4% de la production l'an dernier, mais elle est évidemment, elle aussi, régulièrement touchée par de multiples intempéries, comme le rappelle Jean-Marie Fabre, le président des vignerons indépendants, qui demande la mise en place d'un plan Marshall pour leur permettre de mieux anticiper.
Et il faut mettre en œuvre tous les outils de protection contre le gel, contre la grêle, contre la tempête, contre la sécheresse, afin de ne plus avoir ces impacts massifs, mais un impact minimisé par les outils de prévention. Et moi, j'encourage et j'appelle le gouvernement français à ne plus intervenir a posteriori après les aléas pour essayer de compenser ou de tenir à flot les entreprises qui ont été percutées, mais au contraire, de donner une perspective et de changer le paradigme de soutien et d'accompagnement en nous permettant de nous prémunir. Et donc, il faut accompagner dans ces transitions et dans ces protections un secteur qui reste stratégique pour notre pays.
Et c'est un enjeu économique majeur, hein, puisque le secteur des vins et spiritueux français, c'est le second contributeur à la balance commerciale derrière l'aéronautique, avec près de 13 milliards d'euros.
C'était un sujet d'Aurélien Fleureau. En Grande-Bretagne, le roi Charles III va reprendre ses activités publiques mardi après l'annonce de sa maladie il y a quelques semaines. Il va tout de même poursuivre ses traitements, mais selon ses médecins, ses progrès sont très encourageants. Retour en France avec cette galère pour les usagers de la ligne à grande vitesse entre Paris et l'Est de la France. La circulation des trains est interrompue depuis la mi-journée en raison d'une rupture de caténaire au niveau de Châlons-en-Champagne. Les TGV entre Strasbourg, Nancy ou encore Metz et Paris sont détournés sur la voie classique, entraînant des retards jusqu'à 2 heures selon la SNCF, 5h30 pour certains trains en provenance d'Allemagne. Attention également si vous devez prendre la route, c'est la fin des vacances ce week-end pour la zone A, Bison Futé, voie Orange ce soir pour la région Auvergne-Rhône-Alpes et des conseils notamment d'emprunter l'A7 entre Orange et Lyon jusqu'à 22h.
Ça y est, la flamme olympique est officiellement entre les mains de la France.
Une nouvelle étape de franchie vers les Jeux Olympiques à partir du 26 juillet prochain. Après l'allumage de cette flamme à Olympie le 16 avril et quelques jours de déambulation en Grèce, elle a été transmise à une délégation du comité d'organisation de Paris 2024. Geste symbolique réalisé, Martin Lange, lors d'une cérémonie de passation tout aussi symbolique.
Oui Cédric, notamment avec cette Marseillaise. Alors est-ce que vous reconnaissez son interprète? Pas facile hein.
Moi je le sais parce que j'ai vu la dépêche tomber, mais je vais vous donner le nom.
Oui, donnez-moi le nom, c'est Nana Mouskouri. Exactement, la chanteuse, un trait d'union idéal entre la France et la Grèce. On a aussi vu Gabriela Papadakis, championne olympique de danse sur glace d'origine grecque, elle aussi porter la flamme. Alors des symboles, il y en a eu beaucoup cet après-midi lors de cette cérémonie, avec d'abord le lieu bien sûr, hein, le stade Panathénaïque d'Athènes, pas facile à prononcer Cédric.
Bravo.
C'est un stade antique qui date du 4e siècle avant Jésus-Christ. Il avait été rénové pour les tout premiers jeux de l'ère moderne en 1896. Historiquement, c'est là, dans le berceau de l'olympisme, que la flamme est confiée au pays hôte, la France donc. Et c'est là, il y a quelques minutes à peine, que le président du comité olympique grec a confié la flamme à Tony Estanguet. Une passation pleine d'émotions lors de laquelle le patron de Paris 2024 a révélé qui serait le premier à poser le pied sur le sol français avec la flamme le 8 mai prochain.
Mesdames et messieurs, Florent Manaudou aura l'honneur de ramener la flamme en France à Marseille le 8 mai. Le symbole est d'autant plus fort que sa sœur, Laure, était déjà à nos côtés il y a 10 jours à Olympie. Quelle chance d'avoir l'une des plus mythiques fratries du sport français pour cette formidable aventure.
Laure Manaudou, hein, qui avait été une des toutes premières à porter le flambeau à Olympie. Depuis, la flamme a traversé la Grèce. Ce soir, elle dort à l'ambassade de France à Athènes, sous haute surveillance, avant de prendre la mer dès demain. Embarquement à 10h pétante heure française, à bord du Belém, immense voilier qui a la très lourde tâche de convoyer le symbole de l'olympisme jusqu'à Marseille.
Merci Martin Lange. Il y a aussi du foot ce soir, début de la 31e journée de Ligue 1. À 21h, Montpellier reçoit Nantes. Match particulièrement important pour le maintien, puisque les Canaries n'ont que 3 points d'avance sur le 16e et barragiste à l'heure actuelle, Le Havre, qui jouera demain contre le Paris Saint-Germain.